Nocturnum, Radio Abelbent, avec Pourquoi tu restes, vous restez pour les rendez-vous évidemment de l'été. Aujourd'hui, nous accueillons à votre micro pour démarrer la semaine ma quête ultime, c'est donc un livre et notamment Kezia Briand.
Oui, Kezia Briand qui est l'autrice de ce livre, Ma quête ultime, une exploration infinie, avec un sous-titre aussi, Voyage au cœur des tumultes. Kezia nous raconte sa lutte, toute jeune, enfant, contre la maladie. Aujourd'hui, heureusement, elle est bien avec nous. Bonjour Kezia Briand.
Bonjour.
Alors, on va vous présenter, vous publiez ce premier livre très intime, très personnel sur un événement qui a marqué votre enfance et on va le voir une grande partie de votre vie aujourd'hui. Vous êtes trentenaire, vous vivez en Vendée, à Chalon si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'on peut vous présenter?
Oui, je vis à Chalon depuis bientôt un an, enfin plus d'un an. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur la promotion de mon livre. Et voilà, je...
Vous connaissez bien ce secteur, vous avez grandi pas très loin d'ici en fait. Presque en Vendée.
Oui, avant j'ai vécu sur la commune de Machecoul jusqu'à mes 9 ans. Et donc ensuite, on a déménagé... aussi sur Machecoul sur quelques années, oui.
Et l'âge de 9 ans, ça a été une date importante, un âge important pour vous, on va le comprendre. Vous ouvrez votre livre sur une question, sur un préambule, question que le lecteur peut se poser. Les faits que vous allez raconter sont-ils réels? Alors, pas de doute, mais vous précisez, c'est important quand même, et chaque ligne, on sent que les mots sont importants dans votre écriture. Tout a été réécrit, tout a été ressenti. Pourquoi cette précision était importante?
Parce que j'ai déjà eu la question si c'était réellement l'histoire vécue. Et pour moi, c'était important de préciser ça parce que c'est toute l'essence de mon livre. C'est toute l'essence aussi que ce que je voulais faire passer au travers de mon livre. Et voilà.
Donc c'est effectivement du vécu, mais ce qui a été important, d'après ce que j'ai pu comprendre et ressentir en lisant votre livre, c'est que vous avez plongé au plus profond de ce que la petite fille que vous avez été a vécu.
Oui, j'ai voulu raconter tout ce qui peut se passer dans la tête d'une petite fille et aussi que le lecteur puisse... Mieux s'immerger dans l'histoire et même peut-être aussi s'identifier dans les épreuves. Et voilà, ça me tenait à cœur d'offrir ces passages-là, de les mettre en mots.
Et vous les avez mis en mots plus de 20 ans. Alors, je ne sais pas quand vous avez écrit le livre, mais en tout cas, il sort plus de 20 ans après les faits. Ça a été nécessaire pour vous là, de passer ce temps et à un moment donné de ressortir le stylo ou peut-être le clavier pour écrire?
Oui, j'ai mis 20 ans parce que y avait des deuils à faire. Il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de colère en moi. Et j'ai attendu longtemps avant d'écrire parce que pour moi aussi les souvenirs étaient pas forcément présents et du coup le fait d'attendre m'a aidé à me remémorer tous ces moments-là que j'ai vécu et l'écriture m'a aidé aussi à ancrer tout ça.
Et c'est une écriture qui est forte et vivante. Vous écrivez donc ce début de livre en 2001. Enfin, vous racontez, on est en 2001. On est précisément le 27 février, date qu'on comprend bien, marquée au fer rouge dans votre mémoire, dans un lieu, alors je vous cite, hostile, sombre et froid. On est dans un hôpital. Vous avez 9 ans. On n'a pas en fait le récit de ce qui s'est passé avant ce jour-là, mais ce jour-là était important. C'est le jour du diagnostic. Le médecin qui est en face de vous va annoncer à vos parents et à vous-même d'ailleurs que vous avez une tumeur au cervelet. Alors l'avant, qu'est-ce qui se passe avant? Parce que pourquoi vous ne racontez pas effectivement ces premiers temps où peut-être des symptômes sont apparus?
En fait, tout s'est passé très très vite. J'ai peu de souvenirs de avant, de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que j'ai commencé dès l'annonce, en fait.
Alors, aussi vite, vous êtes le 27 février devant le médecin qui dit à vos parents il faut agir très vite. Le jour même, on vous envoie à Angers, à l'hôpital. Et le lendemain, vous êtes opéré, donc du cerveau, ce qu'on comprend bien, hein, 7 heures d'opération. Donc effectivement, il y a eu un avant et un après, hein, cette journée-là.
Oui. Je comprenais pas ce qui se passait pour moi. Et il y a eu un avant et un après parce que c'est comme si la vie s'était arrêtée entre eux. Et pour moi, je l'exprimais de façon comme si ça a été interrompu à un long moment et que je me réveille soudainement à l'hôpital sans savoir pourquoi et dans le brouillard. Enfin, je le raconte avec beaucoup de
alors, beaucoup de clarté pour le coup.
De nostalgie.
De nostalgie. Bah, on sent, hein, vous. Effectivement, c'est assez rare d'avoir le point de vue de l'enfant qui effectivement est dans la peur, dans l'incompréhension complète, parce qu'on imagine qu'il y a des termes scientifiques aussi qui ne doivent pas être très clairs. Et puis du jour au lendemain, on vous retrouve hospitalisé, puis réveillé après 7 heures d'opération dans un service de réanimation. Donc tout ça est chargé évidemment d'appareils. Les infirmières, les médecins passent rapidement vous voir et vous décrivez avec beaucoup de clarté, j'ai envie de dire, ce moment de brouillard où vous vous retrouvez complètement seul et dans l'incompréhension de ce qui se passe.
Oui, pour moi c'était des inconnus au début. J'ai eu beaucoup de mal à me sentir à l'aise à l'hôpital parce que pour moi c'était un lieu inconnu pour moi et de faire confiance à ces personnes autour de moi, c'était
c'était pas simple, pas aisé, mais on peut comprendre. Et vous écrivez très bien, je cite encore une fois un passage du livre, « J'avais une vision naïve et pure de moi-même, une petite fille vivant des jours heureux, insouciante de ma santé. » Mais ça, c'est ce que tous les enfants de 9 ans ressentent. Et effectivement, une petite fille de 9 ans, un petit garçon de 9 ans, il ne pense pas à un moment donné que sa santé, elle pourrait être en danger, qu'il va falloir ouvrir la tête hein, pour être opéré. Et la maladie, ben, elle vous a confronté à cette réalité aussi de tout ce qui peut nous arriver au quotidien, ce qu'un enfant de 9 ans, normalement, ne ressent pas.
Oui.
Ça, évidemment, vous l'écrivez 20 ans plus tard, mais c'est avec ce recul-là que vous avez l'image de cette petite fille insouciante qui est confrontée à la brutalité de la maladie.
Oui.
Oui, enfin, l'image de l'enfant face à cette enfance un peu perdue. J'imagine qu'à 9 ans, on ne réalise pas qu'on perd un peu une part de son enfance.
Non, on n'a pas du tout cette image-là de la fille déjà dans l'enfance. Pour moi, c'était
l'innocence, la joie.
C'était l'innocence, la joie et de vivre dans l'insouciance. J'ai vu ma vie comme interrompue à ce moment-là, donc ça a été un décalage aussi dans ma vie personnelle de passer de petite fille à adolescente, préadolescente. Donc ça a été douloureux.
Parce qu'on ne réalise pas exactement combien de temps vous êtes resté dans cet univers, mais vous êtes resté un moment à l'hôpital, d'abord en réanimation, dans un autre service ensuite, pour ensuite encore aller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans un centre de rééducation où vous allez rester des mois, si je comprends bien. Il n'y a pas vraiment de date, de durée, mais on comprend que ça dure quand même un long moment pour une petite fille.
Oui, je suis restée très longtemps. tellement longtemps que je me souviens plus de la durée, mais j'ai vécu... au début, c'était très difficile parce que je devais me remettre, enfin me faire au lieu, aux personnes. Et j'ai... il y a la rééducation... et j'ai vécu aussi des moments plus joyeux, mais au début c'était très dur.
Ouais, les premiers temps c'est hôpital, c'est froid, c'est sombre, et petit à petit la vie va revenir un peu dans votre vie quelque part, hein, avec des petites copines qui sont aussi dans le même cas que vous à la rééducation. Il y a aussi la redécouverte de la marche, de la parole, tout ça on va en parler en quelques minutes après une petite pause. On va aller donc à Saint-Gilles avec vous.
Merci Emmanuel. Charlotte Cardin et Feel Good.
Y a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, Italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
Radio, 12h50 minutes, les rendez-vous de l'été. La suite, Emmanuel.
Oui, avec Kezia Briand, notre invitée, on plonge dans l'univers de cette petite fille de 9 ans, opérée quasi du jour au lendemain d'une tumeur au cervelet. Cette petite fille, elle est grande aujourd'hui, elle est avec nous et vous publiez un livre, Maquette ultime, une exploration infinie, avec ce sous-titre aussi, Voyage au cœur des tumultes. Après plusieurs semaines passées donc à l'hôpital à Angers, on vous retrouve donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en centre de rééducation, où vous allez rester un long moment. On n'a pas vraiment de notion de temps, on l'a dit, hein, parce que peut-être que j'imagine que l'enfant que vous étiez n'avait pas forcément non plus la notion du temps à ce moment-là.
Non.
Place à la rééducation, Kezia, avec des exercices quotidiens. On va vous voir vous raconter comment il vous a été nécessaire de réapprendre plein de choses parfois élémentaires, marcher. Avant de marcher, parler déjà, puisque vous avez été longtemps intubé. Donc vous avez dû retravailler la parole, la marche, des gestes quotidiens aussi.
Oui, j'ai dû réapprendre, oui, la marche. Avant la marche, j'ai dû réapprendre les gestes quotidiens, donc manger et faire mes lacets, tout ce qui demandait une dextérité une précision du geste. Et voilà.
Parce que vous êtes resté longtemps à l'IT aussi. La marche, c'est plusieurs paragraphes, c'est même un chapitre entier où vous nous racontez comment, étape par étape, vous avez réappris à marcher. Donc, ça a été évidemment compliqué et même douloureux, dites-vous.
Oui, parce que au début, j'avais beaucoup de mal à marcher, bien sûr. Et puis j'avais.
Ça a été compliqué, ça a été long.
Oui, parce que j'avais besoin du fauteuil au début, régulièrement, parce que je fatiguais beaucoup. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes, et je l'explique dans le livre.
Ça a été des mois d'épreuves, hein, Kezia Briand, que ces mois passés à Saint-Gilles, avec quelques petites notes de couleur, de joie, de lumière, et notamment avec ces jeunes filles, ces enfants aussi, hein, qui partagent votre chambre. D'abord, il y a Élise, il y aura Océane ensuite, et vous avez des mots très tendres. Vous écrivez: je n'aurais jamais imaginé dire ça un jour, mais ces moments partagés avec Élise m'ont véritablement ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment, les petits bonheurs simples.
Oui, ces moments que je partageais avec elle, même si ils étaient douloureux et qu'on était dans un établissement quand même, voilà, qui était très hostile à la base, on a eu une sorte de lien qui s'est ficelé entre nous.
Mais vous viviez un peu des choses proches toutes les deux, hein.
Oui.
Et donc là, les petites joies, vous avez réussi à les entretenir, et du haut de vos 9 ans, à réaliser que ces petits bonheurs étaient importants.
Oui, oui.
Vous nous racontez vos ressentis, un séjour très sympa à la Turballe, oui, avec des animateurs qui vous font du bien, organisés donc par le centre, hein, de rééducation, la complicité avec ses amis dans votre chambre, et puis petit à petit, un jour ou l'autre, il faut rentrer à la maison. Alors c'est évidemment un moment que vous attendez depuis longtemps. Alors, on ne va pas tout dévoiler évidemment de ce récit, mais évidemment le retour après des mois d'absence, c'est à la fois une grande joie et puis pas mal d'anxiété aussi.
Oui, quand je suis rentrée à la maison, il y avait tous les repères à faire, à refaire aussi. Et bizarrement, c'était comme si j'avais été... j'avais du mal à retrouver... j'avais du mal à retrouver ma...
Votre place, peut-être, non ?
Ma place, et me sentir à l'aise. Donc ça m'a demandé du temps entre de passer de l'hôpital à la maison. Il y a un monde entre eux qui sépare, en fait.
Oui, et qu'on ne soupçonne pas, évidemment, quand on l'a pas vécu. Vous nous racontez aussi le retour à l'école, qui n'est pas forcément simple. Les premières années collège, qui n'ont pas été non plus très simples, avec aussi des moments très compliqués avec d'autres jeunes filles du collège. Voilà, je laisse les lecteurs découvrir ces épreuves, et puis ce besoin de reconstruction. Alors voilà, le mot reconstruction, c'est un terme qui va revenir très souvent dans le livre. Alors on imagine à la fois la reconstruction de la petite fille qui a été opérée d'une grave tumeur et qui doit réapprendre beaucoup de choses, et puis la reconstruction de la jeune femme qui doit faire avec ce que vous avez dit en début d'émission, des deuils variés.
Oui, beaucoup de deuils, et alors je suis passée aussi par la thérapie, j'ai suivi des thérapies qui m'ont aidée aussi à reprendre contact, notamment avec mon corps, parce que c'était une des choses qui m'a le plus marquée, et voilà.
Et vous en parlez beaucoup, hein, dans, oui, de ce travail, de toutes les actions que vous avez menées pour vous reconstruire et pour retrouver une certaine paix, hein. Le chemin parcouru, il a été long, mais on sent beaucoup d'apaisement au final.
Oui. Aujourd'hui, oui, je suis beaucoup plus apaisée et le fait de l'avoir écrite, cette histoire, c'est pour moi une libération à travers les mots et voilà, je voulais marquer, je voulais moi aussi me libérer, me permettre d'avancer.
Alors on sent en tout cas tout le plaisir que vous avez dû avoir aussi à trouver les mots. On sent le goût des mots dans votre livre, Kezia. Il est en librairie depuis quelques semaines maintenant et vous m'avez dit, il y a déjà quelques retours de lecteurs, votre ouais. famille peut-être aussi, des amis pas forcément.
Des amis et ma famille aussi.
Le livre, on peut le retrouver en ligne, on peut le retrouver en librairie. Comment vous avez fait pour le faire éditer ? Vous avez trouvé une maison d'édition ?
Alors, je l'ai auto-édité aux éditions Librinova. Il est disponible dans toutes les librairies de France et notamment aussi disponible en format e-book sur les librairies en ligne.
Voilà, il s'appelle, on va rappeler son nom, Maquette Ultime, une exploration infinie, voyage au cœur des tumultes. Vous avez choisi un titre assez long quand même, hein, avec plein de sous-titres. Mais c'est important pour vous d'être précise sur chaque étape.
Oui, oui. Pour moi, le voyage, c'était... je voulais retransmettre ma passion du voyage au travers du titre et... chaque mot est pensé.
On le sent bien à chaque lecture. Au départ, c'est un voyage intérieur. Et maintenant, c'est une ouverture aussi au monde.
Oui.
Merci beaucoup, Kezia. On va retrouver l'émission, évidemment, en ligne. Et puis, on peut vous retrouver dans toutes les libertés, vous, dans toutes les librairies, je vais y arriver. Et Kezia Briand, vous cherchez Kezia Briand. On retrouve son livre, évidemment, sur n'importe quel site littéraire.
Très bien, merci Emmanuel, merci à votre invité. Demain, Sébastien Ménétrier.
Oui, adjoint à la culture à la Garnache. Vous savez que le 7 août va s'ouvrir enfin l'histoire en héritage. Ce sera vers le château, expérience immersive, historique, inédite. On en parle avec lui demain.
Merci, il est 13h. Belle journée, bon appétit. Florent Pagny.